Claude Faible 5 est sorti cette semaine et la première chose que tout le monde a remarqué, ce n'est pas les benchmarks, c'est le prix. 50 $ par million de tokens ont sorti. Le double d'Opus 4.8. Et pourtant, les tests ont été unanimes. Sue Morell est dans une autre catégorie. Techniquement, Fable 5 est identique à Mythos 5, le modèle qu'Anthropic réservait jusqu'ici à une poignée de partenaires triés sur le volet via le projet Glasswing. La différence? Fable embarque des classificateurs de sécurité qui, dès qu'une requête touche à la cybersécurité, la biologie ou la chimie, bascule automatiquement vers Opus 4.8. Le modèle le plus puissant disponible au grand public, mais avec des garde-fous bien visibles. Sur SWBench, le benchmark de référence pour le code agentique, Fable 5 atteint environ 80% de réussite contre 70% pour Opus 4.8. Il dépasse GPT 5.5 et Gemini 3.1 Pro sur plusieurs catégories. Et Anthropic a publié un chiffre qui a fait beaucoup parler. Plus de 80% du code qu'ils expédient en production est désormais écrit par Claude. Le taux de résolution de tâches ouvertes, les problèmes flous, sans solution évidente, est passé de 26% à 76% en 6 mois. C'est le genre de progression qui change la nature de ce qu'on peut confier à un modèle. Brian Castle, lui, n'a pas fait de démo jouet. Il a branché Fable directement sur son outil de production Residence Radar pour lui faire construire une vraie extension. Surveillance de sources externes comme YouTube, Reddit, LinkedIn, détection de sujets montants dans la communauté des builders IA. Sa méthode? D'abord, un travail intense de planification avec le modèle, un document de cadrage avec des critères de vérification précis, puis tout dans Claude Code d'un coup. Résultat, une implémentation complète avec une nouvelle interface, des métriques visuelles, une fonction de rapport. Quelques ajustements UX en deuxième passe et c'était réglé. Son observation centrale. Quand le modèle dispose de critères de vérification clairs, la phase habituelle de raffinement post-build se réduit drastiquement de demande. Ce n'est plus du refactoring, c'est de la validation. Leon Van Zyl a poussé Fable dans une autre direction. Il lui a demandé de construire un jeu de navigateur avec du ray tracing et des réflexions en temps réel, en mode YOLO, sans interruption. Le jeu s'appelle Mirror Forge et il fonctionne. Comparé à GPT 5.5 sur la même tâche, Fable était plus lent, mais les résultats étaient nettement supérieurs. Fireship a testé une interface Tinder pour chevaux. Oui, vous avez bien entendu. Avec des animations SVG qui fonctionnent et des transitions de swipe soignées. Le créateur du langage de programmation GPU Bend a qualifié Fable de son moment de singularité personnelle. World of AI a produit un clone Minecraft, un clone de macOS, et a fait jouer Fable à Pokémon FireRed en utilisant uniquement des entrées visuelles. Mais voilà où ça devient stratégiquement intéressant. Le 22 ou 23 juin, Fable sort des abonnements Pro Max, Team et Enterprise. Après cette date, accès uniquement via l'API en pay-as-you-go. Marc Kachef et le canal francophone IA et Stratégie ont analysé ce mouvement avec une certaine froideur. La thèse est claire. Cette bascule vers un modèle de facturation à la consommation, intervenant quelques jours après le dépôt de dossier IPO d'Anthropic le 7 juin, n'est pas une nécessité technique. C'est une stratégie financière. IA et Stratégie est allé plus loin, qualifiant le discours sécuritaire d'Anthropic, leur mise en garde contre l'auto-amélioration récursive des IA, publiée 3 jours après le dépôt IPO, de théâtre marketing stratégique. Une mission de test de 2h30 avec Fable est consommée 45 millions de tokens de contexte pour un coût d'environ 200 $. Personne ne peut ignorer ces chiffres. La réponse pratique de Kachef est concrète. Ne pas utiliser Fable pour tout. Son workflow recommandé, Fable en mode élevé pour la planification et la spécification, Opus ou Sonnet pour l'exécution, Fable en mode bas pour la vérification et les cas limites. Il note que Fable 5 Medium bat déjà Opus 4.8 Max, ce qui ouvre des marges de manœuvre. Nate Herg complète cette logique avec le concept de sous-agent Claude. En déléguant à des modèles spécialisés moins coûteux, on garde le contexte du modèle principal propre et on réduit significativement la consommation de tokens. La question n'est plus « est-ce que le modèle peut faire ça? » La question est Est-ce que ce niveau de puissance est justifié pour cette tâche précise? Dans l'écosystème des modèles plus largement, World of AI a documenté des leaks sur les checkpoints GPT-5.6 d'OpenAI, nommés Kepler et Kindle, ce dernier étant apparemment le candidat à la sortie, particulièrement convaincant en codage front-end. Un autre nom interne d'Anthropic a aussi filtré, Oceanus, qui serait déjà en développement comme successeur de Mythos. Google Notebook LM a reçu une mise à jour avec des capacités agentiques et une intégration automatique de sources web. Et Apple, lors de la WWDC, a présenté Apple Intelligence avec de nouvelles fonctions Siri, un partenariat avec Google pour les modèles Gemini dans les environnements de développement Apple, et l'extension de Private Cloud Compute vers Google Cloud avec des GPU NVIDIA. Du côté open source, World of AI a testé Next N2 Pro de Next AGI, 397 milliards de paramètres, conçu pour les workflows agentiques. Les benchmarks officiels sont impressionnants, mais les tests indépendants révèlent une performance inconsistante. Le modèle semble avoir été entraîné sur des sorties de style GPT, ce qui se voit dans les résultats. Gemma 4.12b de Google. Lui tourne sur 24 Go de VRAM, traite texte, images et audio sans encodeur séparé, et selon World of AI, il est environ 75% plus rapide que le modèle 26B MOE avec une fenêtre de contexte allant jusqu'à 250 000 tokens. Julian Goldie a montré la nouvelle intégration Ollama dans Hermes Desktop. Des agents locaux, entièrement gratuits, fonctionnant hors ligne, avec la possibilité de basculer entre Minimax, M3 et Gemma en un clic. En parlant de Hermes, c'était sans doute l'outil le plus discuté de la semaine, toutes catégories confondues. Julian Goldie lui a consacré une série de vidéos. Hermes comme base d'un dashboard SEO avec couche mémoire Obsidian et déploiement Netlify. Hermes comme studio de jeux vidéo avec la nouvelle fonction Profile Builder. Hermes comme remplacement vocal de Jarvis combiné à 11 labs et une comparaison directe avec Odysseus et OpenClaw. Ces trois outils open source ont des forces distinctes. Odysseus propose un workspace local complet. Hermes est un agent terminal qui apprend et s'améliore avec le temps. OpenClaw s'intègre directement à WhatsApp ou iMessage. Brian Kaysel, lui, a adopté une approche hybride assumée. Hermes pour les automatisations de fond, monitoring SEO, gestion de dépôt via Discord, et Claude pour les tâches créatives et à haute valeur ajoutée. Sur le terrain du code, Leon Wenzel a démontré des workflows dynamiques dans Claude Code où un script d'orchestration distribue des tâches sur jusqu'à 100 sous-agents en parallèle, illustré avec une analyse de sécurité OWASP Top 10 appliquée à des vidéos YouTube. Neural9 a présenté la fonction de contrôle à distance de Claude Code. Scanner un QR code depuis son téléphone pour piloter une session active sur son ordinateur. Utile pour des tâches légères en déplacement, moins adapté au travail de programmation complexe. Brian Kaysel a aussi adressé le problème du design drift. Quand un agent IA réinvente l'interface à chaque session, créant une incohérence visuelle progressive. Sa solution, un système de design centralisé dans le fichier Claude.md, avec couleurs, typographie et composants définis une fois pour toutes. Dave Ebelar a publié un walkthrough de 4 heures pour construire une application GenAI Full Stack avec FastAPI, React et Supabase, alimenté par des centaines de rapports financiers ESIC de Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon et Google. La pipeline combine recherche sémantique via PGVector et recherche plain texte utilise OpenAI pour les embeddings et Docklink pour la conversion HTML en Markdown, le tout déployé via Docker sur Railway. Nate B. Jones a proposé une distinction utile entre Claude Code et Codex. Claude comme cockpit, proche du modèle, pour accompagner le travail de près. Codex comme centre opérationnel, pour dispatcher plusieurs tâches en parallèle. Les deux ont leur place selon le type de mission. NU10 a reçu le support natif d'OpenTelemetry cette semaine. Deux variables d'environnement suffisent pour injecter les exécutions de workflow et de nœuds comme spans dans des systèmes de tracing comme Grafana. Ce qui change concrètement, pour la première fois, on peut voir en temps réel ce que coûtent les classifications IA dans un workflow. C'est une petite mise à jour qui a un impact réel sur la transparence des coûts. Changement de registre complet maintenant. La semaine a aussi été marquée par des débats de fond sur l'industrie et la société. La mise en garde d'Anthropic contre l'auto-amélioration récursive des IA, publiée le 4 juin, trois jours après leur dépôt IPO, a suscité des réactions sceptiques de plusieurs côtés. Fireship a rappelé le précédent GPT-2. En 2019, OpenAI avait retenu le modèle pendant des mois en invoquant des risques de désinformation. Le modèle a finalement été publié sans incident notable. Théo a structuré le débat en trois scénarios. Stagnation, automatisation forte, mais sous contrôle humain, récursion incontrôlée. IA et stratégie a été le plus direct. Le narratif sécuritaire, dans ce contexte de préparation IPO, ressemble davantage à du positionnement qu'à de l'alerte sincère. Nate B. Jones a analysé la stratégie Apple WWDC sous un angle que beaucoup ont manqué. La vraie question n'est pas « qui a le meilleur modèle? » C'est « qui contrôle la surface par laquelle 1 milliard de personnes touchent l'IA chaque jour? » Apple ne prétend pas avoir le modèle Frontier. Ils utilisent un Gemini de Google. Mais ils veulent posséder le point de contact, l'appareil, le système d'exploitation, les permissions Siri. Si l'IA personnelle devient standard sur iPhone et Mac, elle le devient aussi au travail, parce que les gens importent leurs appareils partout. C'est le vrai enjeu de la WWDC. Sur les licenciements dans la tech, Nate B. Jones a proposé une taxonomie en 5 catégories qui méritent d'être retenues. Les hyperscalers comme Meta, qui justifient leurs investissements GPU, les leaders visionnaires comme Jack Dorsey chez Block, qui restructurent en profondeur, les justifications par l'usage comme Cloudflare, les signaux d'espoir comme Cisco et les licenciements sans lien avec l'IA. Mettre tous ces cas dans le même sac licenciement IA est une erreur d'analyse. Le cas Uber illustre un autre point. Plus de tokens dépensés, plus de commits générés par IA, mais aucune corrélation mesurable avec des fonctionnalités utiles pour les clients. Pour Nate B. Jones, ce n'est pas la preuve que les agents ne fonctionnent pas. C'est la preuve d'une mauvaise architecture de pipeline. Théo a mis dans lumière la crise de compute qui affecte Microsoft, Google et Anthropic. TSMC ne peut pas produire assez vite, la mémoire haute bande passante est en rupture et SpaceX vend sa capacité de calcul excédentaire à Google et Anthropic. La dépendance de l'industrie entière à quelques fournisseurs est plus visible que jamais. David Shapiro a développé une théorie politique et économique qu'il appelle « credible threats », les menaces crédibles. Sa thèse, historiquement, les droits ont été arrachés aux élites, non pas par des arguments moraux, mais par la capacité des travailleurs à imposer des coûts intolérables. Grève, refus, résistance collective. Avec l'automatisation, cette capacité de négociation disparaît. Les élites n'ont plus besoin des travailleurs. Les travailleurs n'ont plus de levier. Ils travaillent sur 2 livres, Labor Zero et Credible Threats, chacun d'environ 190 000 mots, qui examinent les formes historiques de résistance et leur taux de succès. La résistance non violente réussit dans 53 % des cas, contre 26 % pour la violence, et un seuil de 3,5 % de participation active coordonnée n'aurait jamais échoué dans l'histoire. Ce n'est pas du techno-optimisme ni du techno-pessimisme. C'est de la mécanique institutionnelle appliquée à un problème nouveau. Quelques notes rapides pour finir. Zuckerberg et Priscilla Chan ont discuté de Biohub chez No Priors, des outils open source pour la biologie. Prédiction de structures protéiques, modèles cellulaires, pas du LLM au sens strict, mais de l'IA appliquée à la recherche médicale. Satya Nadella, toujours chez No Priors, a défendu l'idée que la capacité humaine à identifier des lacunes et à créer de nouvelles formes d'ambition reste irremplaçable malgré la croissance du capital tokenisé. Bernie Sanders a proposé un fonds d'État qui prendrait 50 % des parts d'OpenAI, Anthropic et XAI. David Shapiro y voit des problèmes constitutionnels majeurs et propose à la place un modèle de gouvernance passive à 10 % avec redistribution aux citoyens. NVIDIA a présenté Nemotron Ultra, un modèle pour agents longue durée avec une accélération d'inférence jusqu'à 5 fois et une réduction de coût de 30 %. Et l'outil de sécurité Scanner, présenté chez Unsupervised Learning, propose une indexation de logs sur Object Storage pour la chasse aux menaces, intégrable avec des outils IA. Ce qui reste de cette semaine, c'est une tension que Fable 5 a rendue très concrète. Le modèle peut faire des choses remarquables, c'est établi, les tests le confirment. Mais le vrai défi qui se dessine n'est pas technique. C'est la capacité à imaginer des tâches suffisamment grandes, suffisamment spécifiques et suffisamment précieuses pour justifier le coût. Nate B. Jones l'a dit en une phrase. Le vrai skill gap, ce n'est pas de savoir utiliser l'outil, c'est de savoir quoi lui confier.